Jean est un chef-d'œuvre, le prologue de l'évangile de Jean, c'est-à-dire les versets 1 à 18 de Jean, eh bien c'est un chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Ce prologue, c'est une sorte de portique qui nous permet d'entrer dans l'évangile tout en présentant les grands thèmes qui vont être abordés dans ce livre. Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu pour nous ce matin. Jean 1, versets 1 à 18. Jean 1, versets 1 à 18, nous lisons la parole de Dieu qui nous parvient au travers de l'évangéliste Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ce texte est très contemplatif. Vous avez peut-être remarqué, quand on lit ce texte, on est plongé dans un autre univers. On est dans un univers glorieux. On commence avant la création du monde et il nous est parlé des relations intratrinitaires entre le Père et le Fils, entre Dieu et sa parole qui existe de toute éternité. Ensuite, il nous est parlé de ce Fils qui s'incarne, qui s'est fait chair. Et au cœur de ce texte glorieux, la possibilité pour nous de devenir enfants de Dieu. Ce texte, et pas comme d'autres textes, il est contemplatif, il est théologique, il est très doctrinal, il nous sort de ce qu'on a l'habitude, et cette prédication, je vous l'annonce, va avoir un petit peu la même saveur. On va se plonger dans un autre univers, un univers théologique glorieux, afin de nourrir notre foi et de mieux comprendre cette glorieuse réalité que nous sommes enfants de Dieu. Ce que l'on va voir ce matin ensemble, c'est que nous sommes enfants de Dieu grâce au Fils unique, ou au Fils, le seul engendré, le Fils unique venu du Père. Alors à la suite de plusieurs commentateurs, je pense que le prologue est structuré comme un chiasme, ou plus simplement comme un sandwich. Dans ce genre de structure, eh bien, ce qu'il y a au début, ça se retrouve à la suite. Hein, donc on a les différents éléments, et puis on a un centre. Eh bien, plusieurs commentateurs ont vu que les versets 1 et 2, par exemple, correspondent au verset 18, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve au centre, eh bien, ce texte-là. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc l'idée, c'est vraiment que le centre de ce texte, c'est de pouvoir devenir enfant de Dieu, que nous sommes nés de nouveau à une nouvelle vie et que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce texte, eh bien, il est encerclé par la salade ici, et ces deux textes, la salade que j'appelle là, les versets 9 et 10 et 14, parlent de l'incarnation. C'est donc grâce à l'incarnation, au fait que le Fils s'est fait chair, que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Hein, nous lisons « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » Versets 9 et 10. Et puis au verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Vous voyez, l'idée, c'est que on a ce sandwich, c'est cette adoption, le fait de devenir enfant de Dieu, pardon, elle est encerclée, entre guillemets, par cette idée de l'incarnation. Et puis, eh bien, notre texte, pardon, commence avec le glorieux mystère de la Trinité. Hein, commence avec cette idée qu'au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il nous dit que la parole est Dieu, mais qu'elle est distincte de Dieu. Et puis, à la fin du passage, personne n'a vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean, dans ce passage, nous parle du Fils comme étant la parole de Dieu et il nous parle du Fils comme étant le Fils de Dieu. Ce matin, nous allons nous concentrer sur l'idée qu'il est le Fils de Dieu. Donc, l'idée de cette... il nous est parlé qu'on devient enfant de Dieu grâce à l'incarnation. Et si on veut saisir un petit peu l'incarnation, nous devons saisir quelques éléments de la Trinité. Et c'est notre programme pour ce matin. Nous allons méditer sur cette glorieuse réalité que nous sommes enfants de Dieu, mais comprendre le fait que nous sommes enfants de Dieu dans le cadre de l'incarnation qui elle-même se trouve dans le cadre de la glorieuse Trinité. Et comme je vous l'ai annoncé, ce texte est contemplatif. Cette prédication sera aussi contemplative, parfois technique, mais accrochez-vous, je crois que ça en vaut la peine. Alors... la Trinité. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à son peuple sous le nom de Yahvé. Un nom qui ne fait pas référence à quelque chose de notre réalité, comme berger ou roi. Dieu se révèle avec des noms qui font référence à notre réalité. Là, il nous donne Yahvé, qui est un mot dont il est difficile de définir et qui est auto-référencé. Et l'idée, hein, par ce nom dont il est difficile de connaître la signification, Dieu nous enseigne qu'il est incompréhensible. Nous ne pouvons pas le comprendre. Il est en dehors de tout genre. Nul n'est comme lui. Et tout au travers de la Bible, ce Dieu, Yahvé, va se révéler de différentes manières. Il va avoir d'autres noms qui vont éclairer qui il est. Et dans le Nouveau Testament, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'envoi du Fils dans le monde et de l'envoi de l'Esprit dans le monde. Le Fils va vivre la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. Il va subir la mort qu'on aurait dû subir. Il va ressusciter, monter au ciel, envoyer l'Esprit. Et ce qui se passe dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est que ce Jésus et l'Esprit Saint vont être identifiés à Yahvé. Et là, on a cette idée, ok, maintenant on a Jésus qui est identifié à Yahvé, l'Esprit qui est identifié à Yahvé, et ce qui nous amène à confesser avec d'autres le mystère de la Trinité qu'on peut très simplement énoncer comme ça. Il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu qui se manifeste parfois comme Père et parfois comme Fils, comme dans le modalisme, non, parce que le Père est distinct du Fils, et le Père est distinct de l'Esprit, et le Fils est distinct de l'Esprit. En affirmant tout ça, on a dit tout ce qu'on doit confesser d'un point de vue biblique concernant la Trinité. Mais l'objectif pour nous ce matin, c'est de grandir un tout petit peu dans notre intelligence du mystère de la Trinité. Bien sûr, je vais juste nous donner quelques éléments pour mieux, moins mal penser à la Trinité. Et on parle du redoublement de notre discours sur Dieu-Trinité. Eh bien, parfois, nous allons parler de la nature de Dieu, de Yahvé. On va parler de qui il est dans son être. Et on va dire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas limité. Il ne change pas. On va dire qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il connaît. Et puis, on va aussi parler des personnes de la Trinité. Il y a deux aspects. Parfois, on parle de la nature de Dieu et parfois, on parle des personnes. Et c'est important de ne pas confondre les choses. Donc, nous disons que Dieu est un en essence. Et on affirme plein de choses sur l'essence de Dieu, sur qui il est, ou plutôt ce qu'il n'est pas. Il n'est pas comme nous, il n'est pas composé, il est infini, il n'est pas limité dans le temps, etc. Et puis, Dieu est trois en personne. Il est Père, Fils et Esprit. Donc, on affirme un certain nombre de choses concernant l'essence et on affirme d'autres choses concernant les personnes. Alors, qu'est-ce que l'on confesse concernant les personnes ? Et c'est là qu'on doit faire attention, car on ne peut pas dire que ce qui, par exemple, distingue le Père du Fils, ce serait que le Fils est amour, alors que le Père serait juste. Pourquoi ? Parce que amour et justice appartiennent à toute la nature divine. Donc, comment est-ce qu'on distingue entre le Père et le Fils au niveau des personnes ? Eh bien, c'est là que les théologiens nous aident, et ceux qui distinguent les personnes dans la Trinité, ce sont les relations. Et les relations sont fondées sur des actions. La Bible nous donne le terme de fils. Père et fils, ça décrit une relation. Le Père engendre le Fils, et le Fils est engendré du Père. Et la relation père et fils, elle est fondée donc sur un acte, l'acte de l'engendrement. Et ce sont ces relations d'origine, que une personne provient d'une autre et que l'esprit provient du père et du fils, eh bien, qui vont nous permettre de penser les personnes. Et voyez, chaque personne a toute la nature divine. Alors, pour nous aider à formuler tout ça, on va pas pouvoir évidemment saisir tout, mais si vous repartez en ayant mémorisé ça, c'est une bonne base pour après continuer à explorer le mystère trinitaire. Voilà la confession de foi baptiste de Londres, la confession de Westminster dit la même chose. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que Dieu est Père ? L'innascibilité, il ne provient de personne. Et ensuite, le Fils, lui, est éternellement engendré du Père. Qu'est-ce qu'on affirme par rapport au Fils ? C'est que le Fils, lui, il est éternellement engendré par le Père. C'est ça qui définit son identité de Fils. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. Notre texte nous dit le mot Dieu, le Fils unique. Et puis, on peut traduire Dieu, le Fils unique, comme la seconde interne, mais on peut aussi traduire Dieu, le seul engendré. Voilà ce que Henri Blocher nous dit. Il faut parler de Dieu comme Père, il faut aussi parler de lui comme engendré. La plupart des manuscrits, pour traduire ce Dieu seul engendré ou Fils unique, je pense que les deux traductions nous aident, mais cette idée de seul engendré, Fils unique, nous aide à saisir ce que nos pères dans la foi ont dit, par exemple, dans la confession qu'on a lue. Alors, ensuite, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et puis, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. M'excuse. Et puis là, on sait, comment il procède ? Le Fils procède par mode de génération. L'Esprit procède, on ne sait pas trop quoi dire. On est toujours embêté avec l'Esprit. Donc, les théologiens vont dire qu'il est spiré parce que Jésus a soufflé l'Esprit sur les disciples. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on peut dire de la Trinité. Le Père existe et de toute éternité, il est innascible, il engendre de toute éternité son Fils, et le Père et le Fils spirent l'Esprit de toute éternité. Et on voit cette idée dans plusieurs versets. Jésus leur dit « Moi, c'est de Dieu que je suis sorti ». Jésus est sorti de Dieu, en référence probablement à cet engendrement éternel du Fils, et pareil pour l'Esprit, l'Esprit qui provient du Père, l'Esprit que Jésus envoie. Donc, en résumé, nous avons le Père qui engendre éternellement son Fils, le Fils qui est éternellement engendré du Père, et le Père et le Fils qui, ensemble, spirent l'Esprit. Alors, l'idée maintenant pour nous, c'est de nous concentrer sur cette idée de Fils. Jésus est le Fils, et nous avons vu que ce Fils s'incarne, et puis nous, dans la foi au Fils, on est unis au Fils, et dans l'union au Fils, on est enfant de Dieu. C'est ça notre objectif ce matin. Que signifie donc Fils de Dieu ? Eh bien, pour savoir ça, on regarde dans notre monde les fils. Qu'est-ce qu'il y a comme aspect chez un fils ? Et il y a deux choses que les engendrements dans notre monde, le fait d'engendrer un fils, nous enseignent. C'est la communication de la nature et la simultanéité. Alors, pour la communication de la nature, c'est simple. Quand on dit un fils, eh bien, un père transmet sa nature à son fils. Ils sont les chats font des chats, les chiens font des chats. Les chats font des chats, les chiens font des chiens, et donc l'aspect de l'engendrement, c'est la communication de la nature. Je communique ma nature à mes enfants. Et c'est un des éléments qu'on reprend, bien sûr. Tout ce qui s'applique au Père et au Fils dans notre monde ne s'applique pas dans la Trinité. Il y a plein de choses qu'on va nier. Mais cet élément-là, on le garde dans la Trinité. Le Fils est éternellement de la même nature que le Père. Et puis, bien sûr, dans notre monde, les Pères, les Fils vont venir à l'existence après les Pères. Mais ça, évidemment, ça ne s'applique pas dans la Trinité. De toute éternité, le Fils est engendré du Père. Et c'est pour ça que l'autre élément, c'est la simultanéité. C'est-à-dire que même dans notre monde, les Pères n'existent pas vraiment sans les Fils. On demandait à une fille de 8 ans, qui était une fille unique, quel âge avait son papa ? Et elle a répondu, mon papa, il a vu 8 ans. Et les gens ont rigolé, et puis ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Elle a dit, oui, parce que avant que je sois née, il n'était pas papa. Donc vous voyez, c'est ces deux éléments. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils éternellement engendré du Père, nous affirmons qu'il est de la même nature que son Père, et puis qu'il est de toute éternité de la même nature que son Père. Et je crois que c'est vraiment ces éléments qui doivent nous conduire, hein, en effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Cet engendrement de toute éternité, le Père engendre le Fils, il lui transmet toute la nature. Donc, un Fils, Père et Fils décrit une relation, et toute relation se fonde sur une action. Donc, Fils, c'est qu'il est en rapport avec le Père, Père qu'il est en rapport avec son Fils, et ça se fonde sur l'action de l'engendrement. Et puis la simultanéité, je l'ai déjà évoqué. Maintenant, l'incarnation. Donc on s'est plongé un petit peu dans la lignée de ce texte de Jean glorieux qui nous plonge dans un autre univers. On est là en plein dans l'autre univers. Et on continue avec quelque chose encore plus mystérieux, et j'espère qu'on pourra saisir un petit peu quelque chose de l'incarnation, ce sera plus court que sur la Trinité. Dieu est un en essence, voilà ce que nous avons vu, et Dieu est trois en personne, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc pour la Trinité, nous disons qu'il est un en essence et trois en personne. Pour l'incarnation, pour la personne du Fils, c'est un peu l'inverse, parce que nous disons que le Fils est un en personne et qu'il a deux natures. Pardon. Donc Jésus-Christ, c'est une personne avec deux natures, une nature humaine. Vous voyez que dans la Trinité, c'est trois personnes avec une nature. Ici, on a une personne et deux natures. Donc le Fils est vrai Dieu et vrai homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Noël ? Dieu le Fils s'est incarné. Le Fils a assumé une nature humaine. Le Fils est devenu Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe à Noël ? Eh bien, ce serait un petit peu faux, pendant longtemps je l'imaginais un petit peu comme ça, c'est que le Fils se détache de la Trinité et paf, il vient sur Terre et puis il assume une nature humaine. Mais je ne pense pas que c'est pertinent de penser les choses comme ça. Non, ce qui se passe, c'est que de toute éternité, le Fils est éternellement engendré du Père et avec le Père, il spire l'Esprit. Et puis c'est le Fils qui va assumer la nature humaine, si bien que maintenant il aura la personne du Fils, qui est définie par sa relation avec le Père, d'engendrement éternel et de spiration de l'Esprit, et puis qu'il a assumé une nature humaine, ce qui fait qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Donc nous confessons que Jésus, c'est une personne avec deux natures. Cela veut, par exemple, dire que quand Marie tient Jésus dans ses bras, eh bien elle porte Jésus selon sa nature humaine. Mais Jésus, au même moment où il est tenu par Marie dans ses bras, ce Jésus-là, selon sa nature divine, il tient le monde dans ses mains. Au même moment où il est bercé par Marie, lui, selon sa nature humaine, et bien selon sa nature divine, ce même Jésus tient le monde dans ses mains, et Marie y compris. Jésus, une personne, deux natures, ces deux natures ne se mélangent pas pour faire une troisième nature, et elles ne se séparent pas pour faire deux personnes, une personne, deux natures. Donc, nous avons ici les éléments théologiques, bibliques, nécessaires pour comprendre ces glorieuses vérités que vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est dans l'union avec Christ, selon sa nature humaine, que nous allons pouvoir être unis, que nous allons pouvoir devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Alors cette glorieuse vérité d'être enfant de Dieu, quelques éléments. La Bible dans le Nouveau Testament, les textes foisonnent pour nous dire qu'on est des enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu, on est fils de Dieu, on est adoptés. Et puis, eh bien, il y a deux manières d'avoir des enfants dans notre monde, deux manières d'avoir des enfants. Premièrement, par génération, et deuxièmement, par adoption. Eh bien, dans le Nouveau Testament, on va utiliser ces deux images. On devient enfant de Dieu par régénération d'en haut, par naissance surnaturelle. C'est ce qui nous est dit en Jean 3:3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis aussi dans notre texte que nous avons lu, au verset 13, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par nouvelle naissance. Nous étions spirituellement morts, et Dieu, par son esprit, nous a fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, et cela fait de nous les enfants de Dieu. Et nous avons foi en Dieu parce que nous sommes d'abord nés de Dieu. Et ensuite, on devient enfant de Dieu par adoption juridique. Et c'est une image que Paul va utiliser, qu'on trouve par exemple dans ce texte de Galates. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Alors, ces deux manières de devenir enfant de Dieu dans le Nouveau Testament. Le texte que nous avons lu parle de la nouvelle génération d'en haut. Et puis, un petit fait intéressant, il paraît dans l'Empire romain, chez les Romains, au temps de l'apôtre Paul, un père pouvait renier son fils biologique, mais il ne pouvait jamais renier un fils qu'il avait adopté. Et je pense que ça en scène quelque chose de glorieux sur notre statut d'enfant de Dieu irrévocable, que nous ne pouvons pas perdre ce statut. Donc ces deux manières de décrire notre salut correspondent, je pense, aux deux manières dont le péché nous a affectés. Le péché a des effets. La conséquence du péché, c'est la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Et la deuxième conséquence du péché, c'est la culpabilité. Parce que nous sommes des êtres responsables devant Dieu, nous devons être punis pour les péchés que nous avons commis. Donc le péché est terrible, c'est le problème de l'humanité. Et la solution au péché, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, par sa mort, Jésus a réglé le problème de notre culpabilité, puisqu'à la croix, il a été puni à notre place, et il règle le problème de notre culpabilité. Et par sa résurrection, il règle le problème de notre mort spirituelle, parce que dans l'union avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Et ces deux images, ces deux aspects de devenir enfant de Dieu, je pense, nous parlent de ces deux éléments. Parce que je suis né de nouveau, eh bien, ça correspond à la résurrection, et cette idée de statut juridique d'être adopté correspond à cet élément de la justification en réalité. Alors, petite application pour nous, quand nous luttons contre le péché et que nous voyons que nous avons de la peine à lutter contre le péché, contre des mauvais désirs, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu par nouvelle naissance, par régénération. Dieu, par la régénération, nous a donné un cœur nouveau qui a envie d'avoir envie d'aimer Jésus plus que tout le temps. Et quand je suis accablé par mes péchés, que je me sens coupable, que je me sens indigne de la présence de Dieu, rappelons-nous de notre adoption. Nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés enfants de Dieu. C'est un statut juridique. Je ne peux pas être plus l'enfant de mon Père ou moins l'enfant de mon Père. C'est un statut irrévocable. Alors nous avons parcouru pas mal de choses et je vous propose deux applications maintenant. Très rapidement, le Père engendre de toute éternité le Fils, le Père et le Fils spirent l'Esprit. Nous avons vu que Dieu est un en essence, trois en personne, et que l'incarnation, c'est le Fils qui a assumé la nature humaine. Le privilège que nous avons, c'est de devenir enfants de Dieu. Et on pourrait résumer que le salut, c'est l'union avec Christ. On est uni avec Christ, ou le salut plutôt, c'est, selon notre texte, devenir enfant de Dieu. Et voilà ce que Henri Blocher... Et nous sommes donc enfants de Dieu, nous sommes faits fils de Dieu dans l'union au Fils. C'est parce que je suis uni au Christ qui lui-même est éternellement engendré du Père et qui avec lui spire l'Esprit, être enfant de Dieu, c'est qu'on est introduit dans la communion du Dieu trinitaire. Voyez à quel point c'est glorieux notre statut d'enfant de Dieu. Nous sommes dans le Fils, dans la Trinité. Et voilà. Associé au don de l'Esprit, du Fils, l'adoption est par Jésus-Christ. Elle nous constitue frères de ce chef qui nous entraîne à sa suite et nous conforme à sa ressemblance. Le caractère christologique de l'adoption justifie la formule classique. Nous sommes faits fili in filio, fils dans le fils et fille dans le fils. Alors, pardon. J'aimerais juste revenir là. Voyez cette glorieuse, pourquoi on a fait tout ce travail un peu compliqué, un peu ardu de la Trinité, de l'incarnation, c'est pour qu'on puisse célébrer le glorieux mystère. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu dans le Fils. Nous sommes filles et fils dans le Fils et nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Et qu'est-ce qu'on fera pendant l'éternité ? On contemplera ce Dieu Trinité. On contemplera le Père qui engendre de toute éternité le Fils est le Père qui spire l'Esprit de toute éternité. Et notre adoration sur terre n'est qu'une anticipation, un aperçu, un avant-goût du bonheur que nous aurons à être dans l'union avec Christ. Alors, souvent on pense au salut, voilà, première application très rapidement, mais souvent on pense au salut comme un cadeau qu'on a reçu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. Et c'est juste. Dieu nous comble de bénédictions. Mais cette idée qu'on est enfant de Dieu, qu'on est fait fils dans le Fils, dans la Trinité, eh bien, nous donne une autre image du salut. C'est que souvent, on peut se dire, ok, le salut, c'est un roi dans un magnifique château qui nous fait un cadeau à nous qui sommes des ouvriers dans son royaume. Et ensuite, on reste à vivre dans notre maison et à le servir. Mais l'image du fait qu'on est enfant de Dieu, qu'on est fait fils dans le Fils, dans la Trinité, eh bien, c'est ça qui se produit. C'est que le cadeau, nous pouvons... Ah voilà, mince, on a raté ma super animation. Je reviens. Hop ! C'est que nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Et le fait d'être enfant de Dieu nous dit que, en tant que chrétiens, maintenant nous sommes en Christ, nous sommes fils dans le Fils. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je me comporte différemment quand je suis en pyjama devant la télé un samedi soir que quand je suis dans un restaurant très classe en costard. Eh bien, le contexte dans lequel on se trouve va totalement changer notre manière de vivre et de nous comporter. Et pour nous, en tant que chrétiens, d'être enfants de Dieu, a l'implication claire et nette que nous devons changer notre manière de vivre. Et il y a plein de manières dont cette réalité que nous sommes unis à Christ, que nous sommes faits fils dans le Fils, il y a plein de conséquences. Mais une conséquence évidente, c'est que l'on va s'aimer les uns les autres. Nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire qui s'aime de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. La conséquence est que nous allons nous aimer entre frères et sœurs, que nous allons nous demander pardon, que nous allons nous repentir des péchés que l'on commet les uns envers les autres, que nous allons nous pardonner, que nous allons porter nos fardeaux les uns les autres. Être enfant de Dieu veut dire qu'on fait partie de la famille de Dieu et que l'on va apprendre à s'aimer les uns les autres. Voilà pour la première application. Deuxième application. Première application, notre statut d'enfant de Dieu change notre comportement. Deuxième application, peu importe comment nous nous sentons, notre statut d'enfant de Dieu ne change pas. Et j'aimerais terminer avec une petite illustration. Imaginez un enfant qui marche avec son père. Et puis, à un moment, il donne la main à son père, à un moment, il court plus loin de son père, à un moment, il est dans les bras de son père, sur les épaules de son père, à un moment, il tombe par terre, il pleure. Et la question, c'est, est-ce que l'enfant, quand il est loin de son père, qu'il est tombé, qu'il pleure, qu'il a mal et qu'il est loin de son père, est-ce qu'il est moins l'enfant de son père? Et est-ce qu'il est plus l'enfant de son père quand il est dans les bras de son père, dans la joie? Absolument pas. Il est toujours l'enfant de son père. Et cette glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu, non pas grâce à ce qu'on fait, mais grâce à l'incarnation du Fils, sa mort et sa résurrection pour nous, et c'est lui qui nous donne la foi pour être unis avec, fait que notre statut d'enfant ne change rien. Et peu importe si je suis dans la souffrance ou dans la joie, ça ne va pas changer mon statut d'enfant de Dieu. Et c'est très encourageant, parce que quand nous sommes dans la souffrance, la vie chrétienne est faite d'atroces souffrances, bon, la vie en général. Mais pour le chrétien aussi, il n'est pas exempt des souffrances. Mais ces souffrances, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes unis au Fils de Dieu, eh bien ces souffrances vont avoir une autre saveur. Elles ne vont pas être uniquement une source de souffrance, mais elles vont être utilisées par Dieu pour me rendre semblable à lui. Et surtout, ces souffrances ne vont jamais remettre en question mon statut d'enfant de Dieu. Pareil avec les bonnes choses, les joies de ce monde. Je vais les vivre différemment dans l'union au Fils, parce que ces joies, en plus d'être quelque chose de plaisant, elles seront un témoignage de l'amour de Dieu envers moi et une invitation à trouver la joie en lui. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous d'être les enfants de Dieu, unis au Christ, le Fils unique de Dieu. Et rappelons-nous que ce statut d'enfant de Dieu, il a un fondement solide, la Trinité, l'incarnation. Et c'est pour ça que nous pouvons vraiment nous réjouir d'être les enfants de Dieu, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit la joie ou la souffrance, cela ne changera jamais notre statut d'enfant de Dieu. Et la réalité de ce statut d'enfant de Dieu va nous permettre de vivre la souffrance et la joie d'une manière différente. Encore une fois, frères et sœurs, réjouissons-nous d'être les enfants de Dieu, unis au Christ. Amen.
Un grand merci à Valentin Cruchet pour son message.